Les Nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Catherine Libert, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, la nuit de l'histoire. Comme chaque année se tiennent à Blois les rendez-vous de l'histoire, occasion pour les Nuits de France Culture de participer à leur manière à cette célébration. Le terme de célébration est sans doute impropre, en tout cas occasion pour les nuits, donc de proposer toute une nuit d'archives sortie des trésors de l'INA. Émission liée à l'histoire, bien entendu, à l'histoire, émission de toutes sortes que la radio a produite au fil des décennies. L'histoire de l'histoire à la radio, là, cela a certainement déjà été traité ici ou là dans une université. Je vois que mon invité acquiesce. En tout cas, le choix des archives cette nuit n'a rien d'exhaustif, on s'en doute. Les nuits sont toujours trop brèves. N'empêche, rien qu'à l'énoncé du programme, on pourra comprendre que, faute d'être exhaustif, nous avons tenu à être éclectique. Bonsoir Pascal Horry.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors l'historien très sérieux que vous êtes, fort connu des auditeurs de France Culture qui vous écoutent entre autres régulièrement dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, auditeurs qui sont également vos lecteurs, le savent bien vous que l'éclectisme c'est l'une de vos grandes qualités, je ne me trompe pas?
Oui, on va appeler ça éclectisme, enfin disons curiosité, et puis volonté surtout de ne pas rester dans des cadres trop rigides, mais certains considéraient éclectisme comme
dévalorisant.
Défaut. Oui.
Alors moi je parle de qualité.
Gardons éclectisme.
Je parlais de qualité pour éclectisme. Donc vous n'avez pas de défaut de toute manière, Pascal Horry. Ce que vous dites, c'est que le passé n'existe pas. Vous écrivez en tout cas cela dans l'introduction à votre dernier ouvrage, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire dans la collection Le Débat chez Gallimard. Alors le passé n'existe pas, il n'est jamais qu'un rapport modifié de l'homme à son présent. Ça veut dire que l'année 2015 que vous traitez dans donc ce que dit Charlie, elle est suffisamment loin de nous déjà, l'intellectuel a le droit de devenir historien immédiatement?
J'ai toujours pensé, je le répète à mes étudiants qui pour certains sont surpris, sinon scandalisés, que l'historien ne s'intéresse pas au passé, il s'intéresse au temps. Je dis pas que le passé me fascine particulièrement, ou alors quand j'avais 8 ans, quand j'écoutais le programme national, Jacques Provin et Michel Méry, etc. Oui, je pouvais être passionné par le passé en tant que tel. Et puis en devenant historien, je me suis rendu compte que c'était pas ça, qu'on travaillait sur le temps. Donc un événement qui vient de se produire, on peut le resituer dans le temps, parce que parler de 2015, c'est par exemple parler de terrorisme ou d'iconoclasme, et là vous avez tout de suite un siècle et demi, 10 siècles dans les jambes. Et c'est ça la prise de distance, parce qu'on peut dire aussi, en tant qu'historien, vous avez besoin de recul. Ça c'est une métaphore d'artilleur. Non, le recul c'est de dire, mais l'iconoclasme, ça remonte tout simplement au début de la Genèse quasiment. Le premier commandement de Dieu débouche sur le second, et le commandement, le premier, c'est quand même le fait qu'on n'aura pas d'autre Dieu à la face du vrai Dieu. Et deuxième commandement, sus à l'idolâtrie, pas d'image taillée. Donc, ça voilà. Et résultat, Charlie.
Donc, observateur avec ce qu'il faut de culture historique pour pouvoir commenter, et voilà.
Et voilà, ça veut dire plusieurs milliers d'années d'histoire.
Oui. Et plusieurs milliers d'heures de lecture, Pascal Horry, de travail, j'imagine, sur, parce que vous n'êtes pas mis soudain, c'est pas le pamphlet que vous avez écrit comme ça, fin janvier 2015, en vous disant, il faut absolument que je réagisse et que je donne 13 leçons d'histoire, puisque tel est le sous-titre de ce Que dit Charlie, publié chez Gallimard, donc,
Comme souvent, ce qui compte, c'est le sous-titre dans un tel livre. Oui. C'est 13 leçons d'histoire, en jouant même sur le mot leçon, parce que leçon, c'est une cueillette, étymologiquement parlant. 13, pourquoi 13? Parce qu'il m'en est arrivé 13 à la douzaine, ça aurait pu être 36. Comme je le dis à la fin de l'introduction, on peut écrire 36 livres sur ce qui s'est passé, celui-ci n'a qu'une seule qualité à mes yeux, c'est le mien. Voilà. Donc j'ai trouvé 13 leçons qui vont de sidération à soumission, en passant par laïcité, liberté d'expression, hyper-cachet, etc. Et derrière, en tant qu'historien, j'ai même été surpris, parce que c'est une sorte de commande que je me suis faite à moi-même, mais je sentais aussi une forme de commande sociale, parce que je vous signale que les téléphones ont vibré tout de suite et que des éditeurs se sont adressés à nous, les historiens, dès le lundi qui a suivi, je me rappelle très précisément, du premier coup de téléphone d'un éditeur sur la caricature. Bon, voilà, donc il y a eu une demande sociale, on pouvait la refuser en disant « Ah non !» ou au contraire se précipiter. Bon, et là, c'est une commande que je me suis passée à moi-même, et heureusement, Pierre Nora, Marcel Gaucher, aux éditions Gallimard l'ont compris. Donc il y avait une forme d'urgence, mais pas de précipitation. Et ce qui m'a surpris, c'est que les 13 points sur lesquels je me suis focalisé, bah, d'une certaine façon, il suffisait que je me laisse aller à remonter effectivement le temps pour voir que à chaque fois, ça posait des questions fondamentales. Parce que soumission, par exemple, c'est un chapitre dans lequel je n'évoque pas l'islam, soumission en arabe, non, j'évoquais le rôle, à travers Michel Houellebecq, de l'écrivain dans tout ça, je vais dire. Et au fond, l'écrivain dans tout ça. Parce que, prenez le cas de Houellebecq, c'est quand même extraordinaire. Il y a, dans mon livre, j'espère, aucun jugement de valeur sur les qualités littéraires de Houellebecq. Moi, c'est en tant qu'historien, constatant le succès de Michel Houellebecq, en France, en Allemagne, en Israël, partout, et le fait que son livre « Soumission » est mis dans les librairies, ce qu'on appelle un office, le mercredi matin, qu'il passe la veille au soir à France 2, qu'on interroge quelques jours avant François Hollande sur ce livre en disant « l'avez-vous lu ?» Évidemment, le président de la République l'avait pas encore lu, etc. C'est quand même très intéressant de voir comment un écrivain peut être au cœur de l'événement, tout en, évidemment, reculant, effrayé. Et le soir du mardi, donc quelques heures avant que les terroristes ne foncent dans Charlie, on a posé la question en direct à cet écrivain, qui s'appelle donc en l'occurrence Michel Houellebecq, mais bon, il pourrait s'appeler Émile Zola, etc. à un autre moment. Est-ce que vous pensez que la littérature, ça peut jouer un rôle dans l'histoire? Peut-être avec le soupçon qu'il répondrait oui. Évidemment, intelligemment, il a répondu non. La littérature ne joue aucun rôle.
Ce qui joue un rôle, c'est finalement, pour les éditeurs, on a l'impression qu'ils se sont rassurés aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous parlez de sidération, Pascal Horry, ce qui a été le cas, comme c'est le cas dans toutes ces circonstances-là. Mais il y a aussi, en effet, tout de suite, on se dit, on va aller chercher les intellectuels qui sont là pour nous expliquer, finalement, pour nous rassurer. Ça s'est déjà produit. Alors, ce qui s'est déjà produit, finalement, ouais. Est moins douloureux. Enfin, c'est terrible, c'est catastrophique, et c'est tout ce qu'on sait. Mais dans la mesure où il y a une manière en nous de vouloir se rassurer peut-être un tout petit peu.
Alors là, vous posez la question et donnez en même temps la réponse, et elle est peut-être bonne. Hein. Est-ce qu'il s'agit de se rassurer? Il s'agit de donner du sens. Mais au fond, un imam ou un rabbin, c'est là aussi pour ça, ça donne du sens. Bon, après. Donc, les intellectuels sont quelque part tous des curés. Bon, voilà. Donc on se tourne vers eux pour donner du sens. Ça, c'est une chose. On n'a pas manqué de le faire. Moi, ce qui m'a frappé, et alors là, ça peut paraître un jugement de valeur pour le coup. Non. Ça semble, entre guillemets, positif, mais d'autres pourraient considérer que c'est négatif. Les librairies, au lieu d'être désertées en 2015, ont été encombrées. Je cite un éditeur qui dit qu'il est très surpris, parce que dans les milieux d'édition, au lendemain des attentats, des premiers attentats, avant novembre, etc., on s'est dit, dans les milieux d'édition et librairies, mais ça, c'est la catastrophe. Ils vont tous se précipiter vers leur appareil de télévision, ou éventuellement écouter la radio, et point barre. Eh bien, pas du tout. Il y a eu la recherche de sens, pas simplement en essayant de savoir ce que Michel Onfray en pensait, mais aussi de lire Voltaire, ou même tout simplement d'acheter Voltaire, presque ne pas le lire, mais d'acheter un livre parce qu'il y a le mot tolérance. Parce qu'il y a des mots, par exemple, très 18e, très siècle des Lumières, complètement obsolètes, ringardisés par plusieurs générations d'intellectuels, comme tolérance et fanatisme, c'est vraiment des mots qui n'étaient pas du tout d'actualité, qui redevenaient d'une brûlante actualité. Ou sur un autre plan, Hemingway après les attentats de novembre.
Une fête.
Ça, c'est très intéressant pour un historien de la culture. Après, on en pense qu'on en veut. Par exemple, il est clair que Rousseau n'était pas pertinent l'année dernière, c'était Voltaire. Après, on peut être pour Voltaire, pour Rousseau, ça, d'une certaine façon, ça me laisse complètement indifférent.
J'ai évoqué l'histoire de l'histoire à la radio qui a été certainement traitée. Vous devez savoir ça, Pascal Horry. Je suis sûr que vous avez eu de nombreux étudiants et étudiantes qui ont eu envie de parler de la façon dont la radio, de tout temps, a traité l'histoire. C'est un petit peu ce qui va être le principe de cette nuit, parce qu'il a fallu choisir dans les centaines et centaines d'heures radiophoniques qui pouvaient se rattacher à l'idée d'histoire, à l'idée d'enseignement de l'histoire ou à l'idée de distraction. Par rapport à l'histoire. C'est un sujet que vous avez retrouvé, enfin, quand on vous apporte des mémoires, des thèses.
Une de mes fiertés, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai celle-là, c'est d'avoir été le seul, d'ailleurs, à vrai dire, à la Sorbonne et même au-delà de la Sorbonne, disons sur la place de Paris par prudence, mais à mon avis à l'échelle de la France, avoir levé un jour le doigt quand s'organisait un programme de master d'histoire en disant, mais au fait, on parle d'histoire de la télévision, là, histoire de la presse écrite, Internet, vous ne parlez pas d'histoire de la radio. Et évidemment, on s'est tourné vers moi en disant, puisque c'est toi qui poses cette question incongrue à laquelle nous n'avions évidemment pas pensé, tu t'en occupes. Et j'ai donc depuis une dizaine d'années, à la Sorbonne, à Paris 1, un cours qui débouche sur certaines recherches. Chaque année, il y a 2, 3, 4 chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la radio. Mais le cours s'appelle « Histoire et radio ». C'est-à-dire qu'il se décline de 3 façons. L'histoire de la radio. Ensuite, la radio dans l'histoire, c'est-à-dire que le son radiophonique, eh ben, il témoigne et en même temps, il joue un rôle, évidemment, dans l'histoire. Et puis, troisièmement, et c'est là qu'on arrive et à votre nuit de l'histoire, l'histoire à la radio, ce qui fait que j'ai des étudiants qui ont travaillé sur l'histoire de l'émission La Tribune de l'Histoire, sur l'histoire de l'émission La Fabrique de l'Histoire, sur l'histoire de l'émission Les Lundis de l'Histoire, etc.
Alors, peut-être que les auditeurs vont... On va donner, comme d'habitude d'ailleurs, le déroulé de cette nuit, et je vous autorise à réagir. Dans une petite demi-heure, Les Lundis de l'Histoire, Marc Bloch, il est question de Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, c'est une émission de Jacques Le Goff qui date de 1989, il avait réuni autour de lui Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Robert Pitt et Pierre Toubert. Vous auriez pu écouter cette émission en 1989, vous, Pascal Horry.
Il est bien possible que je l'ai écoutée. J'écoutais beaucoup Les Lundis de l'Histoire, surtout quand j'étais étudiant. Je ne dis pas que tous les étudiants écoutaient cette émission, et c'est un peu dommage, il n'y avait pas de podcast à l'époque. Quand on l'avait raté, c'était généralement le lundi matin, c'était raté. Mais c'est une émission très intéressante au second degré, parce que c'est grosso modo le témoignage de la prise du pouvoir par ce qu'on appelle l'école des annales. Elle date, je crois, de 1966, et on y retrouve très vite Jacques Le Goff, jusqu'au bout, jusqu'en 2011. C'est un record. Ce sont des émissions qui durent très longtemps, c'est comme La Tribune de l'Histoire, 47, 48 ans, etc. On y trouve Roger Chartier, on y trouve Denis Richer, auquel je tiens à rendre hommage ici, que j'ai connu personnellement, qui était un ami. Et donc c'est vraiment, grosso modo, l'école des annales, c'est tout à fait intéressant. Et dans l'émission, on a aussi le roi Ladurie. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on invite un géographe, hein, Jean-Robert Pitt, c'est-à-dire que c'est l'ouverture aux sciences sociales.
Suivra, alors, une petite, Tribune de l'Histoire, mais l'estrade de l'histoire. Alors, on aura compris tout de suite que c'est un pastiche. Et évidemment, l'émission s'appelle Radio Pastiche. Vous vous souvenez donc, Jacques Provin et Michel Méry, ça vous dit quelque chose? C'était sur la chaîne parisienne fin 1959. Vous étiez un tout petit garçon si vous avez écouté ces émissions-là.
D'abord, je n'étais pas un tout petit garçon, j'avais 11 ans. Et deuxièmement, j'écoutais la radio avec passion depuis un certain nombre d'années, dont Jacques Provin et Michel Méry. Vous savez, ce sont des noms, quand ils se gravent dans votre tête, quand vous avez 8 ans, 12 ans, vous les oubliez pas. Jacques Provin et Michel Méry, même leurs deux voix, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus vraiment. Et à l'époque, Radio Pastiche, c'était quelque chose de très important pour beaucoup d'auditeurs, dont moi.
Et ça permet vraiment de traiter un sujet, d'alterner le sérieux et le comique, parce qu'on va les retrouver à deux reprises. Donc, la première fois, Louis XIV, et puis en toute fin de nuit, la révolution de 1789. Donc, on se doute que étant dans le pastiche, étant dans la comédie, et on se doute que c'est pas l'école des annales.
Sans doute, ce serait intéressant d'écouter un pastiche de l'école des annales, mais je pense pas que plus tard ils aient osé le faire.
D'ailleurs,
ils n'étaient plus à Radio Pastiche. Ils ont essayé Télépastiche, je crois, après. Non, simplement, il faut remarquer qu'aujourd'hui, on aime beaucoup la parodie, et il faudrait peut-être réécouter Provin et Méry sous cet angle-là. Les insolents d'aujourd'hui avaient des ancêtres, quand même.
Alors, ensuite, une grande conférence, Louise de la Vallière par Gabriel Olivier. Ça, c'est en 1953. C'était dans le cadre de l'Université des Annales. On est, vous l'avez pas entendu, moi aussi, elle est, bien sûr, je l'ai choisi, je l'ai écouté, on est dans le très sérieux, dans le très académique. Mais c'est ça aussi la radio, c'est-à-dire qu'il y a des... Et c'est pas simplement les années 50 qui seraient académiques, et puis les années 60 qui seraient école des annales, etc. Il y a de tout temps, se sont imbriqués sinon des écoles, du moins des traitements différents d'un sujet, en l'occurrence l'histoire.
Absolument, c'est à la fois un genre qui s'appelait causerie avant-guerre et qui devient peu à peu conférence.
À causerie, on est dans un studio comme cette nuit. Ouais. Une conférence quand même, il y a un public qu'il faut faire rire de temps en temps, qu'il faut se faire applaudir, il faut avoir des effets, etc. Ce qui n'est pas le cas dans la causerie.
Oui, mais grosso modo, vous avez utilisé le bon mot, académique, mais dans tous les sens du mot, c'est-à-dire que l'académie française, à la limite, n'est pas loin, c'est-à-dire que on n'est pas à l'université, il faut bien comprendre ça, surtout à cette époque-là, il y a une faille entre les deux. Et c'est pas les annales dont je viens de parler, c'est l'université des annales, c'est-à-dire un endroit mondain, disons, mais sans jugement de valeur, mondain. Et la tradition de la causerie et de la conférence mondaine n'a pas complètement disparu aujourd'hui.
Alors ensuite, l'histoire en direct, là. Alors vous connaissez mieux, c'était Emmanuel Laurentin, donc, qui en 1999 traitait Alors, non pas de histoire et radio, mais de télévision et radio, puisqu'il, dans ce documentaire, il abordait la fameuse caméra Explore le temps, et dont le sujet était les Cathares reviennent, et on sait, ou on peut savoir, on a su, que ce fut la dernière émission de cette série, puisqu'elle n'avait pas eu l'heure de plaire à l'Élysée, au général.
C'est très Laurentin, c'est très Fabrique de l'Histoire, c'est-à-dire que c'est de l'histoire déjà au deuxième degré, puisqu'il n'est pas question des Cathares, mais de la façon dont, dans les années 60, l'équipe de la Tribune de l'Histoire, mais passée à la télévision avec en plus le réalisateur Stelio Lorenzi, traite des Cathares, et des collègues ont travaillé sur la renaissance du mouvement, non seulement cathariste aujourd'hui, quand vous allez dans l'Aude, etc., bien, il y a une question de Cathares partout.
Un peu fantasmé aussi, d'ailleurs.
Oui, et une mythologie cathare est renée, ça a donné un second souffle au mouvement occitaniste grâce à cette émission de télévision qui, ayant lieu en deux parties, a fait qu'entre la première partie et la deuxième partie, la vente des appareils de télévision dans le Sud-Ouest a monté en flèche.
Alors c'est raconté dans cette histoire en direct, donc 1966, les Cathares reviennent, que vous pourrez écouter vers 2h40, Pascal Horry et tous les auditeurs.
Je n'y manquerai pas.
Toutes les auditrices, bah oui, vous serez là, toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et la nuit prochaine, il y aura le débat. Parce que vous vous souvenez, cette émission était en deux parties, il y avait le documentaire, et puis à l'époque, c'était 15 jours plus tard, il y avait un débat qui réunissait des tas d'historiens ou de chanteurs occitans et qui racontait en effet cette expérience donc de télévision, mais qui pourrait être une expérience de radio également.
Sauf erreur, cette émission d'ailleurs avait été créée par Patrice Gélinet.
Bien sûr.
Emmanuel Laurentin lui succédait et ensuite a quand même complètement volé de ses propres ailes. Ça a été la Fabrique de l'Histoire.
La nouvelle Fabrique de l'Histoire. Bref, on recevra ensuite au milieu de la nuit François Colcombet qui viendra nous parler d'un livre de Valérie Larbaud, Haleine. Alors là, on est dans le thème de Blois, à savoir partir. En l'occurrence, partir, il y a une façon très tragique de partir. Pour ce qui est de Valérie Larbaud, on comprendra que lui, il quitte Paris simplement pour le Bourbonnais de son enfance. Et il traverse, c'est une traversée de la France, mais dans un style Valérie Larbaud. Pourquoi revenir? Pourquoi aller là? Enfin, voilà. Et que dire au cours de ce trajet? Vous-même, vous avez été, enfin, ce week-end à Blois. Est-ce que vous êtes à l'origine de cette formule ou non, Pascal Horry?
Alors, ces thèmes sont définis de façon collective par le conseil scientifique des rendez-vous et confirmés ou pas, d'ailleurs, généralement confirmés par le conseil d'administration. Je ne trahirai pas un secret en disant que j'avais proposé le thème partir et qu'il a rallié assez vite tous les suffrages. D'autant plus que partir, parce que c'est ce qu'on demande à ces thèmes-là, ça concerne toutes les périodes de l'histoire. Et puis, c'est une acception large qui va du voyage à l'exil, en passant par la migration, en passant par la mort, tout simplement. Enfin, il y a bien des déclinaisons du partir, donc c'est parfait.
Alors, après la rencontre avec François Colcombet et à propos de Valérie Larbaud, on pourra écouter les Annales de la violence par Lily Sioux, et c'est une dramatique. Le nouveau procès de Ravaillac de Georges Neveu avec Michel Bouquet. Vous voyez que l'histoire n'est jamais figée. La preuve, c'est que la radio réorganisait des procès comme ça. On pensait que tout était dit sur tel ou tel assassin, empoisonneuse, etc., roi ou régicide ou bref. Et puis, eh bien non, la radio était là pour refaire le procès, en l'occurrence de Ravaillac. C'était une dramatique diffusée en 53 sur France 3 National. C'est un genre qui vous amuse ou pas du tout, Pascal Horry, le retour sur le procès, c'est-à-dire entre le fait divers, le jugement de l'histoire, le jugement de l'opinion publique.
Ben, j'ai moi-même participé à la télévision suisse romande il y a bien longtemps, à une émission de télévision qui était un nouveau procès de Louis XVI, par exemple.
Ah, oui,
et puis il y avait aussi des nouveaux procès de Pétain, etc. Donc je pense que dans quelques années, un producteur de télévision, de radio, aura l'idée géniale de dire on pourrait peut-être organiser un nouveau procès de... Ça marche toujours, donc il n'y a pas de raison. Et ce qui est intéressant pour l'historien, c'est le second degré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sauverait Louis XVI, on sauverait Marie-Antoinette, etc., alors qu'à l'époque... Georges Neveu est un auteur oublié, c'est de ces auteurs très importants qui sont assez présents comme scénaristes de films, auteurs de pièces de théâtre et maintenant disparus dans des grands trous. Et puis, Lily Sioux est évidemment un nom très important de l'histoire de la radio avec ses fameuses cartes blanches. Et je suis très content qu'il y ait Michel Bouquet parce que personnellement, c'est une voix que j'ai connue grâce à la radio. Moi, je n'étais pas parisien, j'étais dans ma province, donc je ne pouvais pas aller découvrir Michel Bouquet qui, à l'époque, était spécialisé dans les rôles d'Anouilh, hein, pauvre Bitos, etc., et qui n'avait pas la célébrité célébrité qu'il a eue ensuite grâce à Chabrol. Et donc, Michel Bouquet, c'était une voix pour moi grâce à la radio. Et je crois qu'il continue à avoir une certaine sympathie pour la radio, parce que c'est extraordinaire de voir le nombre de très grands comédiens qui ont pu vraiment être très présents à l'oreille de leurs concitoyens, de leurs contemporains, grâce à la radio.
Vous pensez à La femme infidèle, peut-être, de Chabrol,
c'était ça. Oui. Il y a eu une série de Chabrol avec Bouquet, et là tout le monde a découvert la qualité de Bouquet. Ça faisait quand même 30 ans, grosso modo, que c'était un très grand comédien. Il a même commencé, je crois, dans un film de ce très grand cinéaste qui s'appelait Jean Grémillon. Du moins, il devait tourner dans un film de Jean Grémillon dans les années 40. Bon, ben, c'est grâce à Chabrol qu'on l'a découvert. Personne n'avait l'air de savoir que c'était un des plus grands comédiens de la radio depuis déjà 15 ans.
Mais les auditeurs des Nuits de France Culture l'entendent très souvent, car il est souvent dans les dramatiques,
oui, ou même
dans
les... Évidemment, il a une voix radiophonique, il y en a qui ont des voix plus radiophoniques que d'autres.
Entretien ensuite avec Marie Desplechin, qui viendra nous parler de Sotique. Alors Sotique, c'est publié à l'École des loisirs, spécialisée dans la littérature pour enfants ou jeunes adultes ou enfin, adolescents. Sotique, c'est un récit terrible d'un petit enfant qui était au Cambodge, un petit Cambodgien qui a vécu pendant l'époque du génocide, donc qui n'est pas parti. Voilà, parce que partir, c'est une tragédie, ça peut être une tragédie, ça peut être leur rêve, mais ne pas partir, c'est aussi une autre tragédie. Et bon, voilà. Donc, et puis on terminera cette nuit spéciale Histoire, Pascal Horry, par un radio pastiche, ça je vous l'ai déjà annoncé. Donc le pastiche de la Tribune de l'Histoire sera le deuxième de la nuit, le podium de l'histoire. Tout à l'heure, c'était l'estrade de l'histoire, maintenant c'est le podium de l'histoire. La révolution de 1789. 1957 sur la chaîne parisienne. Alors voilà, vous êtes, ça vous convient cette nuit d'archives historiques d'histoire
de l'histoire. Et j'espère que vous en ferez d'autres, parce que j'aimerais bien réentendre des tribunes de l'histoire tout court. Voilà, oui, bien sûr.
Bon. Alors, bah, vous restez là. Donc du coup, on revient à votre travail d'historien, et donc vous nous avez expliqué d'historien observateur de l'immédiat, et donc en effet, vous vous intéressez pas au passé, mais au temps. Donc le temps, eh bien, il peut surgir d'une manière extravagante, et épouvantable, catastrophique, en une journée, en une soirée. C'est des moments que guette l'historien. Enfin, quand on est un historien qui n'est pas l'historien de la préhistoire ou de la période romaine.
Bah, travaillant sur le contemporain, c'est vrai que je suis parfois confronté à des collègues qui travaillent sur des périodes supposées reculées, mais dont je constate qu'ils sont aussi passionnés, parfois partiaux, que ceux qui travailleraient sur la Révolution française qu'on citait tout à l'heure, ou sur la Révolution bolchevique. Vous savez que les préhistoriens, je ne dis pas qu'ils s'entrégorgent, mais en tous les cas, ils polémiquent violemment sur une question d'ailleurs fondamentale qui concerne 2016, évidemment, et la suite, à savoir, est-ce que la guerre était déjà présente dans la préhistoire? Et il y a une lecture un peu rousseauiste, d'après moi, qui consiste à penser que la société préhistorienne était forcément irénique, et puis ceux qui disent que vraisemblablement, bah, nos désirs pour les...
Vous prenez parti, vous dites que c'est finalement la naissance de l'agriculture, non ? Enfin, qu'on commence à faire la guerre ?
Oui, en tous les cas, on avance peu à peu sur cette question, et moi je passe la parole aux spécialistes. Apparemment, incontestablement, l'agriculture va accélérer les conflits, mais certains préhistoriens pensent qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y avait pas des conflits à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Hein. Enfin, vaste problème. Simplement pour dire que, en tant que contemporanéiste, j'ai pas l'impression de faire du journalisme, comme le pensent peut-être certains collègues sans le dire. À vrai dire, je suis historien parce que mon père était journaliste et que, en grec, historia, ça veut dire enquête.
Enquête. Alors, enquête, ce que dit Charlie, donc, que vous publiez chez Gallimard, Pascal Horry, ça pourrait être aussi 13 ans enquête, d'ailleurs. C'est 13 leçons d'histoire, mais c'est 13 leçons d'histoire, finalement, que vous avez reçues vous-même ou que vous donnez.
Bah, je les ai reçus en pleine figure d'une certaine façon. Puis surtout, je me suis dit, mais par exemple, prenez le cas du terrorisme. J'avais fait un peu d'histoire politique, j'avais travaillé comme d'autres sur, par exemple, l'avancée vers la révolution russe, etc. J'avais travaillé sur les anarchistes, même un peu plus. J'avais réédité des textes anarchistes. Et quand j'étais amené à m'interroger sur le terrorisme, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de liens que de différences. Et ça, je suis sûr que je choque encore et des auditeurs de France Culture, et des historiens. Mais honnêtement, il faut s'interroger sur des notions comme anarchisme, comme illégalisme, le fait que le terrorisme soit une stratégie et non pas une idéologie fait qu'il, d'abord, il peut être d'extrême droite, d'extrême gauche. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit extrême. Et que d'autre part, c'est la même technique à toutes les époques, chez les Russes de 1880, dans la volonté du peuple, chez les anarchistes de 1890, dans la bande à Bader, etc. Il y a beaucoup plus de points communs entre toutes ces périodes et ces expériences que de différences. Il s'agit de déstabiliser un système avec un grand S qui va se durcir, hein, quand on dit dérive sécuritaire, mais c'est ce que souhaite le terroriste. Il faut que le système se durcisse, sauf que le terroriste est un optimiste qui n'a jamais été pour l'instant confirmé, à savoir que le système se durcissant va tomber. Eh ben, le système tsariste n'est pas tombé. Et Lénine avait un frère aîné qui était terroriste. Et à mon avis, Lénine, il s'explique parce qu'il a vu l'échec de son frère aîné.
En 2017, je suis sûr.
Oui, il faudra dire à ce moment-là que vous et les autres producteurs de France Culture, vous n'oubliez pas que la grande révolution russe, celle qui a renversé le tsar, c'est celle de février. Celle de février. Et que Lénine a renversé un social-démocrate qui s'appelait Kerensky. Mais ça, c'est une autre
chose. Qui était minoritaire.
Ah, ils ont, politiquement, vous savez, la grande différence entre l'idéologie et la politique, l'idéologie c'est une affaire de système de représentation, vous avez 36 000 idéologies, bon d'accord. La politique, c'est de croiser ça avec les rapports de force. Le génie de Lénine, c'est qu'il a vu où était le rapport de force chez les paysans. Les soviets de soldats, c'était des soviets de paysans, sous les armes. Et donc il a dit aux paysans russes, qui était la clé, comme en 89, comme sous Jules Ferry, c'était eux la clé, il leur a dit ce qu'ils voulaient entendre, les paysans. La terre aux paysans, la paix tout de suite. Ce que ne disait pas Kerensky. Moyennant quoi, on est entré dans une expérience qui a été catastrophique au sens étymologique du terme, c'est pas un jugement de valeur. Catastrophe en grec, ça veut dire dénouement d'une tragédie.
Parfois, il n'y a jamais de dénouement.
C'est un coup de théâtre. La catastrophe, c'est un coup de théâtre.
Alors, les 13 leçons d'histoire donc, que vous signez, Pascal Horry, vous les avez citées, Sidération, Caricature de Mahomet, Le crayon guidant le peuple, Guerre de religion, terrorisme, liberté d'expression, laïcité, place de la République, Je ne suis pas Charlie, le ne est pas entre parenthèses, Hypercacher, traité sur la tolérance, soumission, The Massacre at Paris, pour citer la pièce.
Elisabethen, oui.
Voilà. Ces 13 leçons, dans 5 ans, vous allez vous relire. Est-ce que vous allez dire, bon, cette leçon n'est pas bonne, cette... On ne peut pas anticiper, bien entendu, mais malgré tout, vous êtes historien et vous avez aussi le droit de repentir, ou en tout cas de relecture de vous-même.
Oui, ce que je dirais, comme le héros de Moonfleet, la leçon a été profitable, monsieur. Ce que Serge Danet a repris à plusieurs reprises. J'ai écrit chaque ligne de ce livre avec la conviction, c'était une hypothèse, qu'il y aurait d'autres attentats. Que c'était simplement le premier...
Avant le 13 novembre.
Hein. C'est écrit avant le 13 novembre. Que c'était le premier d'une série, étant bien entendu que tout s'éclaire quand on voit qu'il y a déjà eu un attentat contre Charlie, enfin bref, et qu'on peut remonter le fil en aiguille à ce que j'appelle la révolution de 1975. C'est-à-dire que les repères intellectuels, culturels, mais aussi économiques et politiques, bien sûr, de la société occidentale et même des sociétés en général, ont basculé au milieu des années 70. Aujourd'hui, on est en train de découvrir l'importance de 1979, Roménie, etc. Mais c'est tout un ensemble, la fin de la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, etc. Ça part de là. Et nous sommes encore là-dedans. Nous ne sommes évidemment pas dans le train des 30 Glorieuses, nous sommes dans le train des années qui ont suivi, qui n'ont pas vraiment de nom. Donc moi, j'ai écrit... convaincu de ça, convaincu qu'il fallait que chaque ligne de mon livre puisse tenir s'il y a 2 ou 3 vagues d'attentats. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi, mais ça, j'en étais absolument convaincu. Donc c'est un livre qui est d'une certaine façon daté, mais j'espère daté pour un bon bout de temps.
Pascal Horry, dans ce livre, ce que dit Charlie à travers ses 13 leçons, vos citations sont faites de plus de journalistes, alors là d'observateurs, même d'hommes de médias, que d'intellectuels. Ou que d'historiens, plutôt.
Que d'historiens. J'en cite quelques-uns. Patrick Boucheron, Jean-Marie Le Gall, etc. ont très vite écrit aussi hein, sur cette question du haut de leur spécialité respective. Par exemple, Jean-Marie Le Gall, spécialiste des guerres de religion. Vous vous rendez compte que jamais les spécialistes de l'iconoclasme byzantin n'ont été, j'allais dire, à Paris fête, les pauvres, en tous les cas, sollicités, parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils ont quand même une expertise, premièrement. Deuxièmement, intellectuels. Je consacre un chapitre justement aux intellectuels, c'est le traité sur la tolérance, parce que, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, le statut de l'intellectuel s'est affaibli en France. Il s'est affaibli entre autres parce que l'intellectuel français n'est plus audible à l'étranger.
Oui. Ce qui était, vous dites revanche... que l'intellectuel finalement il est suivi ou lu parce que certaines personnes pensent que l'intellectuel a raison ou a quelque chose
à dire.
C'est-à-dire
de moins en moins de gens le pensent et en particulier quand même une dimension capitale que beaucoup d'intellectuels ou d'historiens des intellectuels refusent de voir, mais enfin c'est quand même clair, c'est que quelle que soit la qualité vous savez, elle était souvent très faible. À l'époque, par exemple, de la guerre froide, hein, le niveau de polémique des années 50, c'est pas un âge d'or, à mon avis, la guerre froide.
Mais se faire traiter d'hypérotitiste, voilà, c'était pas ça. Bien.
Donc le niveau de qualité de l'intervention d'intellectuel étant à la limite secondaire, ce qui compte, c'est qu'il soit écouté ou pas. Et au-delà des frontières, aujourd'hui, l'intellectuel francophone, pour diverses raisons, est très peu et de moins en moins écouté. Voilà. Par ailleurs, il n'y a plus seulement la forme qui subsiste avec des gens comme Alain Badiou, par exemple, de l'intellectuel normalien agrégé de ceci et de cela, philosophe ou je ne sais quoi, ou même historien. Non, aujourd'hui, il y a des intellectuels qui s'appellent Alain Soral, je suis désolé, on en pense qu'on en veut, sans doute Michel Onfray, et qui il faut savoir, non pas un universitaire, mais justement quelqu'un qui est à cheval entre les médias, les contre-médias, l'université populaire, etc. Et puis, un certain nombre d'intellectuels de blogs qui ont leur blog ou qui sont présents à la télévision. Enfin, là, Tariq Ramadan, etc. Ce sont des intellectuels. J'ai pas de compteur Gégère à mesure.
Vous prenez pas, hein, vous le dites pas, mais moi, voilà, je le dis, c'est des êtres effrayants.
Ah, mais dans la liste des intellectuels, vous n'avez pas des gens effrayants?
Non, je sais pas, Tariq Ramadan, Soral.
Mais ça, c'est un jugement de valeur. Moi, je vois qu'ils sont actifs, prescripteurs, qu'ils forment des esprits, comme au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas que les encyclopédistes au XVIIIe siècle, vous aviez les anti-encyclopédistes.
Hein. Eh bien, écoutez, raison de plus pour lire vos 13 leçons d'histoire, Ce que dit Charlie, Pascal Auriche, édité chez Gallimard. Et puis cette nuit de l'histoire à l'occasion des rendez-vous de Blois, eh bien, va se poursuivre dans l'écoute des archives dont nous avons donné tout à l'heure la liste. Pascal Auriche, à tout à l'heure, puisqu'en fin de nuit, vous reviendrez nous dire quelques mots brillants, j'espère.
Avec un bon café quand même. Hein.